דף קוף ממדלת עמוד בית, en bas du עמוד, מציב רבינה. On a vu plus haut dans la Gemara que Shmuel pense que quand on presse un fruit sur des aliments, ça s'appelle un ochel, et donc il n'y a pas de issur de srita. On a le droit donc de presser même du raisin ou des olives sur des aliments directement, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas le issur de mefarek, puisque il sépare un aliment d'un autre aliment et pas une boisson d'un aliment. Metiv Ravina, Ravina objecte, Tamei met shesachat zetim va'anavim kabeitsa mechuvenet tahor. Donc il y a une Mishnah qui dit que un tamei met, quelqu'un qui s'est rendu tamei au contact d'un mort, qui a pressé des olives et des raisins, qui font un volume exactement d'un kabeitsa, le jus qui sort de ces fruits est tahor. Donc ça veut dire que le tamei met pour rendre tamé le fruit, donc il le rend tamé en le touchant, et il rend tamé effectivement le raisin ou l'olive qu'il tient dans la main, seulement ça rend pas tamé le jus qui est à l'intérieur, et lorsqu'il presse le jus ne devient pas tamé au contact du fruit. Pourquoi ? Parce que comme au moment où le jus commence à sortir, donc ça diminue le volume du fruit, et que le fruit ne fait plus un volume de kabeitsa, donc un fruit de moins d'un kabeitsa ne peut pas rendre tamé quelque chose d'autre. Donc c'est pour ça que le jus reste tahor. Ha yoter mi kabeitsa tamé. Et il déduit de là, Ravina déduit de cette Mishnah, que si le fruit faisait plus de kabeitsa, le jus serait tamé, puisque là, le fruit fait kabeitsa même une fois que le jus a commencé à sortir, donc il peut rendre tamé le jus. Et Ravina comprend que cette Mishnah parle aussi bien du cas où on a pressé ces fruits-là dans un récipient vide que dans le cas où on les a pressés dans des aliments. Et donc il pose la question à Shmuel, veillez à Marc, mashke abal le ochel ochel hu. Or si tu dis que une boisson qui se déverse dans un aliment est considérée comme un aliment, bema itkasha. Donc ce jus-là est considéré comme un ochel, comme un aliment. Un aliment pour recevoir la touma, il faut qu'il ait été rendu apte à recevoir la touma en étant mouillé au préalable. Et donc là, par quoi il a été mouillé pour pouvoir recevoir la touma? Où motive là, où mefarek là, besochet le tochakara. Donc Ravina lui-même qui a posé cette question, il répond lui-même à cette question en disant que la Mishnah parle effectivement seulement du cas où on a pressé dans une assiette vide et pas du cas où on a pressé dans des aliments. Et donc c'est pour ça que c'est un statut de mashke. Comme c'est un statut de mashke, ça n'a pas besoin d'être hurchar les kabel touma, ça n'a pas besoin d'être rendu apte à recevoir la touma en étant mouillé. De toutes les façons, il reçoit la touma. Amar Rabbi Irmia a dit ketanae. Il dit qu'en fait ce sujet-là de mashke abal le ochel, une boisson qui est versée sur des aliments, est-ce qu'elle a un statut de ochel ou de mashke, c'est une machloket entre les tanaïm. Amachlik ba'anavim lo hurchar. Donc la Mishnah dit que un boulanger qui étale du raisin sur ses pains, ils ne sont pas ourchar, ils ne sont pas devenus aptes à recevoir la touma. Ça veut dire qu'ils avaient l'habitude, les boulangers avaient l'habitude d'écraser du raisin sur les pains pour faire du jus de raisin sur le pain. Et donc ce premier Tana, le Tana Kama de la Mishnah, dit que celui qui écrase les raisins, ça ne rend pas le raisin apte à recevoir la touma. C'est-à-dire que le jus qui sort de ces raisins ne rend pas apte le raisin à recevoir la touma, ni le pain non plus dans le cas où le pain n'était pas encore apte à recevoir la touma, mais généralement le pain on le pétrit avec de l'eau, donc il a déjà été mouillé, donc il est hurchar le kabel touma. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit hurchar si le raisin est devenu apte à recevoir la touma. Bainav Beav Kamiflegé, n'est-ce pas que leur machloket est justement celle-là? Mar Savar Mashke Abal et Ochel, Ochel Hu. Donc le Tanakama pense que une boisson qui va dans un aliment est considérée comme un aliment. Donc ce jus de raisin, puisque il est directement, quand on le presse, il va sur le pain, donc il est considéré comme un aliment et pas comme une boisson. Et donc puisqu'il n'est pas considéré comme un mashke, il ne peut pas rendre le raisin apte à recevoir la touma. Ou Mar Savar Lav Ochel Hu. Alors que Rabbi Yehuda pense que c'est pas un ochel, c'est pas un aliment, il est considéré comme une boisson, et donc il rend le raisin apte à recevoir la touma. Amar Rav Papa a dit non. Découler alma mashkeh abal ochel lavochelou. On peut dire que tous les deux Tanaïm pensent que une boisson qui est pressée directement dans un aliment n'est pas considérée comme un aliment, mais comme une boisson. Alors quelle est la machloket ici? Rav mashkeh abal ibud kamuflegé. Et ici la machloket c'est concernant une boisson qui va être perdue. C'est-à-dire que on la presse sur le pain et elle va être immédiatement quand on va la rentrer le pain au four, ça va s'évaporer. Donc il va pas rester en réalité de liquide, il va rester que une couleur mais pas de liquide, et c'est là la machloket, est-ce que c'est considéré comme un mashke ou pas? Mar savar mashke ou? Le Rabbi Yehuda pense que c'est un mashke, donc ça peut rendre le raisin apte à recevoir la touma. Ou mar savar la mashke ou, alors que Tanakama pense que c'est pas considéré comme une poisson, comme une boisson. Ou beplukta de tanae. Tanakama a dit que Rav Papa dit que ça correspond à la machloket d'autres Tanaïm. D'Etania, comme on enseigne dans la Breta, Hamefatsea bezetim beyadaim mesuavot hurchar. Donc celui qui frappe des olives avec des mains qui sont tamées, donc des mains qui sont chaînées à Touma, les olives sont devenues aptes à recevoir la Touma. Et donc elles recevront la Touma de ses mains, s'il s'agit d'olives de Touma, qui peuvent recevoir la Touma, de chaînées la Touma. Mais ici le sujet, c'est surtout par rapport au fait que c'est devenu apte à recevoir la Touma, parce que quand il écrase les olives, quand il tape ses olives, c'est pour les ramollir, pour qu'elles ne soient pas trop dures, mais en même temps, il est intéressé par l'huile qui va couler quand il les tape, parce que ça leur donne un bon goût. Donc c'est pour ça que on considère que les olives sont aptes à recevoir la Touma, parce que il était intéressé par ce qu'elle soit mouillée par ce jus, par cette huile. Les softan bamelach le urcha. Par contre, si quand il les a tapés, c'était pour pouvoir les saler, c'est-à-dire que quand les olives sont trop dures, on peut pas le sel ne pénètre pas, ne colle pas dessus, donc il les ramollit pour pouvoir les saler. Donc là, c'est pas urcha, ça devient pas apte à recevoir la touma, parce que il n'est pas intéressé par le liquide, l'huile qui coule. Les daimigus etavlim sokim lav le urcha. Et quand il les tape pour vérifier si ces olives sont arrivées à maturité pour être cueillies ou pas, donc si elles sont encore sur l'arbre, il veut vérifier si elles sont suffisamment mûres pour être cueillies. Donc là, ça ne devient pas apte à recevoir la touma. Rabbi Yehuda omer urcha. Alors que Rabbi Yehuda dit que si, ça devient apte à recevoir la touma. Maïlav be'ak amiflegé. N'est-ce pas que leur machloket est justement ça? Des mains savoir mashkeh omed les bouts de mashkehu. Que, pardon. Rabbi Yehuda pense que une boisson qui va à sa perte est considérée quand même comme une boisson. Donc quand il tape les olives qui sont sur l'arbre, le jus, l'huile va couler par terre et donc elle va être perdue. Mais malgré tout, c'est considéré comme une boisson, comme un mashkeh. Et donc, ça peut rendre les olives, le fruit, apte à recevoir la touma. On va savoir la mashkehu, alors que Tanakama pense que c'est pas considéré comme un mashke, et donc ça ne rend pas les olives aptes à recevoir la touma. Amar Ravuna Berede Rav Yehoshua. Ravuna Berede Rav Yehoshua a dit, Ané Tanaïm mashke omed les bouts pliés. Effectivement, ces deux Tanaïm dans cette dernière Braïta à propos des olives, effectivement, leur machloket, c'est concernant mashke omed les bouts, donc un liquide, une boisson qui va être perdue. Mais les deux premiers Tanaïm de la Mishnah qui a été cité précédemment, donc par rapport au boulanger qui écrase des raisins sur son pain, là c'est un autre sujet. Le sujet c'est Mashke Omed les Tartsecho, lorsque c'est un liquide qui est là pour faire briller le pain, pour donner de la couleur au pain, est-ce que c'est considéré comme un mashke ou pas? Amar Abizera Marabriya Barashi Amarav. Avizera a dit au nom de Rav Chia Barashi qui a dit au nom de Rav, Sochet Adam Eshkol Shfaranavim Letor Hakdera, Avalo Letor Hakeara. Donc la même chose que Shmuel, il dit qu'on a le droit de presser une grappe de raisin dans une marmite, ça veut dire dans de la nourriture, dans des aliments, Avalo Letor Hakeara, mais pas dans une assiette. Donc comme on a dit, parce que quand c'est directement dans de la nourriture, donc c'est considéré comme Ochel, donc il n'y a pas de histoire de Mefarek, puisqu'il sépare un ochel d'un ochel, mais si c'est dans une assiette vide, là c'est un mashke, et donc il extrait un mashke d'un ochel, ce qui est le issur de Mefarek. Vedag le siro afilu le toch hakeara. Et Rav ajoute qu'on peut presser un poisson pour extraire son jus, même dans une assiette, ça veut dire même si ça ne va pas dans des aliments, parce que le jus du poisson n'est pas considéré comme un mashke, mais comme un ochel, comme un aliment, de toutes les façons. Yativ Rav Dimi et Kamarla le Hashmata. Donc Rav Dimi était assis et disait cet enseignement de Rav. Amar le Abaye le Rav Dimi, Abaye a dit Rav Dimi, Atun Mishme de Rav Matnitun Vela Kashalechu. Il lui a dit, vous enseignez ce dîne-là du poisson au nom de Rav, et donc vous n'avez pas de questions. Anan Mishme de Shmuel Matnitun avec Ashalan. Alors que nous, on rapporte ce dîne-là au nom de Shmuel, et alors ça nous pose un problème parce que ça contredit un autre enseignement de Shmuel. Miamar Shmuel Dag les Siro Afilu les Tochakehara. Est-ce que Shmuel a dit que un poisson, on a le droit de le presser pour extraire du jus de poisson même dans une assiette? Veitmar, pourtant on a enseigné. Kvashim chez Sachatan. Alors kvashim, c'est des légumes qu'on a fait macérer dans du vinaigre ou dans d'autres liquides. Et qu'on presse maintenant. Amar Rav les goufan moutar, les mémen patour avalasour. Rav dit que si on presse ces légumes en conserve, si c'est les goufan pour les consommer à eux-mêmes, ça veut dire qu'en réalité il n'est pas intéressé par le jus, mais c'est juste parce que ils sont trop gorgés d'eau ou de vinaigre et il veut enlever un petit peu de ce liquide. Ça c'est permis, même les khatrida, ça s'appelle pas mefaret, puisqu'il n'a pas besoin du liquide qui sort. Les mémehen, patour avalasour. Par contre, s'il est intéressé par le jus qui va sortir, c'est patour, ça veut dire qu'il n'y a pas de chiouv minatora. Pourquoi? Parce que c'est pas le jus naturel des légumes, c'est une eau qui est rentrée dans le légume mais qui vient de l'extérieur. C'est pas comme le jus du fruit qui est son jus naturel avec lequel il pousse. Mais c'est un jus qui vient de l'extérieur, donc c'est pour ça que Minatora, il n'y a pas de chiyuv. Avalasur, mais c'est asur midrabanan, de peur qu'on presse des olives ou des raisins. Ushlakot, et si c'est des légumes bouillis, ben les goufan, ben les mehen, moutard, que ce soit pour manger les légumes eux-mêmes ou pour le jus qu'on les presse, dans tous les cas, c'est permis. Parce que c'est pas considéré comme un mashke, comme un liquide, comme une boisson, mais comme un ochel, comme un aliment, dans le cas des shlakot, des légumes bouillis. Ou Shmuel Amar, alors que Shmuel dit, Echad kvashim, Echad shlakot, les goufan moutar, les mêmes patour avalasour. Lui, il dit qu'il n'y a pas de différence entre des légumes qu'on a fait macérer ou des légumes qu'on a bouillis. Si on les presse pour consommer le légume lui-même, c'est permis. Si c'est pour le jus, patour avalasour, c'est patour avalasour. Et donc la question que Abaye pose, il dit d'après leur version que c'est Shmuel qui a dit qu'on a le droit de presser le poisson pour son jus, c'est comme les shlakot, comme les légumes bouillis, et donc ça contredit s'il a permis d'un côté de presser le poisson, comment ça se fait, même pour extraire son jus, comment ça se fait que dans les légumes bouillis, il interdit. Amarle, alors Rav Dimi lui dit, A Elohim enai raou velozar. Lui dit, je te jure que, donc il paraphrase un pasouk qui dit, c'est mes yeux qui l'ont vu et pas quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire, c'est quelque chose que je sais moi-même de source sûre. Mi poumeh de Rabbi Irmiya shami ali. Je l'ai entendu de la bouche de Rabbi Irmiya. Ve Rabbi Irmiya me Rabbi Zera, Rabbi Irmiya de la bouche de Rabbi Zera. Ve Rabbi Zera me Rav Chiya Barashi. Rabbi Zera l'a entendu de Rav Chiya Barashi. Ve Rav Chiya Barashi me Rav. Et Rav Chiya Barashi l'a entendu de Rav. Donc c'est sûr que cet enseignement du poisson qu'on a le droit de presser pour son jus, c'est un enseignement de Rav et pas de Shmuel. Donc il n'y a pas de contradiction puisque Shmuel effectivement pensera que c'est assur de presser le poisson pour extraire son jus. Goufa. Alors la Gemara revient sur ce din là qu'on a vu précédemment, kvashim chez Sachatan, donc des légumes qu'on a fait macérer et qu'on presse, amarav les goufan moutar les mêmes patour avalasour. Rav a dit que si c'est pour les consommer eux-mêmes qu'on enlève leur jus, c'est permis, mais si c'est pour le jus, on est intéressé par le jus, c'est patour avalasso. Ou shlakot ben egoufan ben emmen tar. Et si c'est des légumes qu'on a fait bouillir, que ce soit pour manger le légume lui-même ou pour le jus, c'est permis. Ou shmuel amar et shmuel a dit, chadze ve chadze legoufan moutar le même patour avalasso. Shmuel dit, il n'y a pas de différence, que ce soit des légumes qu'on a fait macérer ou des légumes qu'on a fait bouillir. Si on les presse pour manger le fruit, juste pour enlever le jus, pour pouvoir manger le fruit, c'est permis. Mais si c'est pour le jus, c'est pas tout rabat la sour. Rabbi Yochanan Amar, il y a un troisième avis. Rabbi Yochanan dit, Echad kvashim echad shlakot, que ce soit des légumes macérés ou des légumes qu'on a bouillis, les goufan moutar, si c'est pour les consommer eux-mêmes, c'est permis. Les memehem, chayav khatat, mais si c'est pour leur jus, c'est chayav khatat. Donc ça veut dire que tous les trois, Rav, Shmuel et Rabbi Yochanan sont d'accord que les goufans, si c'est pour consommer le fruit lui-même, c'est permis. La machloket, c'est quand c'est pour le jus. D'après Rav, il y a une différence entre kvashim et shlakot. Pour les kvashim, c'est patour avalasour, pour les shlakot, c'est permis. D'après Shmuel, tous sont patour avalasour. Et d'après Rabbi Yochanan, tous sont chayav khatat, c'est asour minatora. Metive, la gemara object, il y a une breita qui dit, sochatim kvashim et shabbat et tzorech shabbat, avalo le motzei shabbat. On a le droit de presser donc des légumes qui ont macéré pendant Shabbat, si on veut les consommer pendant Shabbat, mais pas pour les préparer pour Motzei Shabbat. Et la Braïta ne fait pas de différence entre si on les presse les goufanes ou les méméhen, si on les presse pour les consommer eux-mêmes ou pour consommer le jus. Les etimanavim, l'oïsrod, v'insachat, chayav khatat, et des olives et des raisins, on ne doit pas les presser, si on les a pressés, on est chayav khatat. Kachal et Rav, Kachal et Shmuel, Kachal et Rabbi Yochanan. Donc c'est une question contre Rav, contre Shmuel et contre Rabbi Yochanan, puisque aucun des trois ne permet les khatrila de presser des kvashim, des légumes macérés, pour leur jus. D'après Rav et Shmuel, c'est patour avalasour, et d'après Rabbi Yochanan, c'est même chayav khatat. Donc comment se fait-il que cette Mishnah le permettent même les khatrila. Agma a dit, Rav metaret setame, Shmuel metaret setame, Rabbi Yochanan metaret setame. Rav va répondre à cette question et va expliquer la braïta selon son opinion, Shmuel va expliquer selon son opinion et Rabbi Yochanan selon son opinion. Et en fait, tous les trois, le point commun de tous les trois, c'est que tous les trois vont dire qu'en fait cette braïta a parlé du cas où on presse pour utiliser le fruit et pas pour le jus. Donc l'agma va expliquer. Rav metaret setame, Rav va expliquer selon son opinion, sur Khatin Kvashim Beshabbat et Torah Shabbat, Avalo le Motsei Shabbat. On peut presser des légumes qui ont macéré, on peut les presser pendant Shabbat, si c'est pour Shabbat, mais pas pour les préparer pour Motsei Shabbat. Bam et Dvarim Amorim les Goufan. Quand est-ce qu'on a permis seulement si c'est pour pouvoir manger les légumes eux-mêmes? Avalé Memehem, Patour Avalasour. Mais si c'est pour extraire le jus, si on est intéressé par le jus, là c'est Patour Avalasour. Ou shlakot ben legoufan ben emmem moutar. Par contre, si c'est des shlakot, c'est des légumes bouillis, que ce soit pour consommer le légume lui-même ou pour le jus, c'est permis. Donc, c'est comme son opinion à lui, Rav. Vezetim vanavim lo ishrot v'msechatan chayav khatat. Et des olives et des raisins, on ne doit pas les presser. Si on les a pressés, on est chayav khatat. Shmuel metaret setame. Shmuel explique cette braïta selon son opinion. Sechatin kvashim beshabbat letzorech hashabbat ou adin les shlakot. Donc on peut presser des légumes macérés pendant Shabbat pour Shabbat, et on a le droit également, le din est le même, pour des shlakot, pour des légumes bouillis. Bah mais dvarim amourim les goufan, quand est-ce que c'est permis seulement si c'est pour le fruit lui-même? Avalé memehem, patour avalasour. Mais si c'est pour le jus, c'est patour avalasour. Mais et ivanavim, lo isrot, vimsachat chayav khatat. Et si c'est des olives ou des raisins, il ne doit pas les presser, s'il les a pressés, il est chayav khatat. Rabbi Yochanan metaret setame, et Rabbi Yochanan expliquera cette braïta selon son opinion. Sur Khatim Kvashim le Tzorech HaShabbat, Avalo le Motzei Shabbat. Donc on peut presser des légumes qui ont macéré, on peut les presser pour Shabbat, mais pas pour Motzei Shabbat. Echad Kvashim et Echad Shlakot. Et le din est le même, que ce soit des légumes qui ont macéré ou des légumes qui ont bouilli. Bam et Dvarim Amourim les Goufan. Et c'est permis seulement si c'est pour consommer le légume lui-même. Avalé même, le Isrod Vimsachat, Nasa Kemish Isrod Zetim Banaim Chayav Khatat. Mais si c'est pour le jus, il n'a pas le droit de les presser. Et s'il les a pressés, c'est comme s'il avait pressé des olives et des raisins. Et il est donc Chayav Khatat. Amar Avriya Barashi Amar Rav. Avriya Barashi a dit non de Rav. Var Torah Eno Chayav Elal Drissat Zetim Banavim Bilvad. Mina Torah, on est Chayav que si on presse des olives et des raisins. C'est-à-dire que comme c'est des fruits qui sont faits pour être pressés. Donc, le jus qui sort a un statut de mâché. Et donc, il y a le issur de Mefarek qui est une tolda de dash. Par contre, les autres fruits, comme ils sont pas destinés à ça, même les fruits qu'on presse parfois, comme Tutim Verimonim, dont on avait parlé plus haut, mais il n'y a pas de issur Minatora, seulement Midérabanan. Vechen Tanan Debe Menaché, et c'est également ce qu'on a enseigné dans une breta qui a été enseignée au Beta Midrash de Menaché, Dvar Torah Inochayav El Aldrisat Zetim Vanavim Bilvad, Minatora on est chayav que si on presse des olives et des raisins uniquement. Et cette braïta ajoute Ven ed mi pi ed kasher et là les edut isha bilvad. Et un témoin qui témoigne de quelque chose qu'il n'a pas vu lui-même mais qu'il a entendu d'un autre témoin, c'est ce témoignage est valable seulement uniquement pour le témoignage d'une femme, ça veut dire pour pas mettre une femme quand il témoigne que son mari est mort. Donc une femme dont le mari est parti et on n'a pas de nouvelles et il y a un témoin qui vient et qui dit qu'il est mort, elle peut se marier selon le témoignage même d'un seul témoin, même le témoignage d'une femme, et là ce qu'on nous dit c'est même le témoignage de Ed Miped, même un témoin qui n'a pas vu lui-même que cet homme était mort mais qui a entendu d'un autre témoin qui a vu que cet homme était mort, c'est valable, mais uniquement dans ce cas-là dans Edut Isha. Et ben allez, oui, ils se sont posé la question. Ed mi pied le edut bechor mahu. Est-ce que ce témoignage d'un témoin au nom d'un autre témoin est valable pour le témoignage de bechor? C'est quoi le témoignage de bechor? Un premier-né animal, il faut le donner au Kohen, et le Kohen doit le sacrifier, et il mange une partie de la viande. Si ce bechor, il lui arrive un défaut qui fait qu'il est pas soul comme Corban, donc il appartiendra au Kohen et il pourra en faire ce qu'il veut, il pourra le consommer entièrement, il est plus c'est plus un Corban, il n'y a plus de Kdusha, il perd sa Kdusha de Bechor. Et il faut que ce soit donc un Moum Gamour, un Moum Kavua, que ce soit un défaut qui est un véritable défaut pour considérer que il perd son statut de Bechor. Mais il y a aussi une autre condition, on en avait déjà parlé plus haut dans la Gemara, c'est que il faut pas que ce défaut ait été fait volontairement. Si ça a été fait volontairement, le Bechor n'est pas permis. Et il y avait une époque où les Kohanim faisaient des défauts au Bechor volontairement pour pouvoir le manger entièrement, et à cause de ça, les Chachamim ont exigé qu'il y ait un témoignage. Que quelqu'un témoigne que ce défaut n'a pas été fait volontairement pour pouvoir permettre le Bechor. Et pour ce témoignage, les Chachamim ont fait certaines coulottes, c'est pas comme un témoignage ordinaire, et c'est pour ça que la Gemara se pose la question ici, est-ce que même Ed Mipied est valable pour ce témoignage ou pas? Ravami Asir ve Ravasi Charé. Ravami interdit et Ravasi permet. Amarle Ravami le Ravasi, Ravami a dit Ravasi, va atana de Bemenachia, en et Mipied Kacher, elle a les doutes Shabilvad. Donc Ravami qui interdit, demande à Ravasi qui permet, il lui dit mais pourtant, on en sait cette Breita qui a été enseignée au Beta Midrash de Menaché, que le Ed Mipied, un témoin d'un autre témoin, n'est valable que pour le témoignage d'une femme, et Ravami comprend donc que le témoignage d'une femme, c'est-à-dire pour permettre une femme à son mari, pour permettre à une femme de se remarier, pour témoigner que son mari est mort. Agma répond non. Donc Ravasi répond à Ravami, Ema les doutes chez Isha Kshirala. Il ne faut pas dire les doutes Isha, ça veut dire pour le témoignage d'une femme pour permettre la femme, mais pour le témoignage pour lequel une femme peut témoigner. Or, une femme peut témoigner aussi pour le Bechor, donc le Ed Mipied est valable aussi pour ce témoignage. Donc, ça veut dire qu'il comprend les termes de Edut Isha d'une autre manière que Ravami. Edut Isha, c'est pas le témoignage pour une femme pour qu'elle puisse se remarier, mais c'est le témoignage qui peut être fait par une femme. Donc ça inclut et le témoignage pour permettre la femme, parce que là aussi effectivement une femme peut témoigner pour permettre une autre femme, pour lui permettre de se remarier, et c'est valable aussi pour le Bechor, puisqu'une femme peut témoigner aussi que le défaut n'a pas été fait volontairement, que le Moum n'a pas été fait volontairement. Rav Yemar Achshar Ed Miped le Bechor. Rav Yemar a autorisé aussi ce témoignage de Ed Miped pour un Bechor. Carré allé Maremar, Yemar Shari Bukhra. Et Maremar, à cause de ça, l'a appelé Yemar qui permet les Bechorot. Velcheta Ed Miped Kachar le Bechor. Et la halakha est que, effectivement, ce témoignage, même Ed Miped, même un témoin d'un autre témoin, est valable pour le témoignage du Bechor. Chalot de vache. On a vu dans la Mishnah une marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer concernant des pains de miel qui ont été écrasés avant Shabbat et le miel coule pendant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de consommer ce miel ou pas? Tanakama interdit et Rabbi Eliezer permet. Tanakama interdit parce qu'il craint que si on lui permet de consommer ce miel, on risque de prendre des pains de miel qui n'ont pas été écrasés et les écraser pendant Shabbat. Alors que Rabbi Eliezer dit que puisque ce miel est déjà en train de couler, il a déjà été écrasé, donc il n'y a pas lieu de craindre qu'il va écraser ce pain de miel, et on ne craint pas qu'il écrase d'autres pains de miel. Kiata Ravoshaya Minardea, Atav a été matnita beyade. Lorsque Ravoshaya est venu de Nardea, il a apporté avec lui une braïta, qui dit, Zetim v'anavim shiriska me'erev Shabbat v'yatsu me'atzman asuri. Donc des olives et des raisins qu'on a écrasés avant Shabbat, et pendant Shabbat le jus coule tout seul, ce jus est interdit. Et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon matirin. Et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon permettent. Amar Rav Yosef, Gavra et Tera, Talea Shmuinan. Donc Rav Yosef demande, est-ce que Rav Oshaya est venu nous apprendre simplement un Tana supplémentaire? Ça veut dire que il comprend que c'est exactement le même sujet que dans notre Mishnah, que dans le cas du miel. Et donc la différence entre cette Braïta et notre Mishnah, c'est que dans notre Mishnah, on a dit simplement « Rabbi Eliezer permet », alors que là, c'est écrit « Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon ». Donc, et ici, « Tantana supplémentaire ». Donc, Rabbi Yosef demande « Est-ce que c'est ça que Rabbi Oshaya est venu nous enseigner ?»« Amar le Abaye Touba Kamashmalan ». Abaye dit « Non, il nous apprend beaucoup ».« Dei mimat mitin ava amina atamu de meikara ukhla ulbasof ukhla »« Avalakha de meikara ukhla ulbasof mashkeima lo kamashmalan ». Si ce n'était que notre Mishnah, on aurait dit que c'est seulement dans le cas de notre Mishnah qu'on parle de miel. Le miel, au départ, c'est un aliment, et à la fin aussi, une fois qu'il a été extrait, c'est aussi un aliment. Donc, c'est pour ça que Rabbi Eliezer le permet. Mais ici, vu qu'au départ, c'est ukhla, c'est le raisin et le vin, au départ, c'est un fruit, c'est un aliment, et après, ça devient une boisson. Imalo, j'aurais dit que dans ce cas-là, Rabbi Eliezer ne permet pas. Kamash Malan, c'est ce qu'il est venu nous enseigner avec cette braïta, c'est que malgré tout, Rabbi Eliezer permet même dans ce cas-là. La Mishnah dit, Kol Sheba Bechamin Me'erev Shabbat, Shorinoto Bechamin Be'Shabbat. Tout ce qui a été cuit avant Shabbat, on peut le tremper dans de l'eau chaude pendant Shabbat. C'est-à-dire quelque chose qui a été cuit complètement avant Shabbat, pendant Shabbat, on a le droit de le tremper dans de l'eau chaude, même un clérichon, du moment qu'il n'est pas sur le feu. S'il est sur le feu, il y a d'autres problèmes. Mais s'il n'est pas sur le feu, c'est permis parce que il n'y a pas de bichoul achar bichoul. C'est-à-dire une fois que ça a été cuit avant Shabbat, pendant Shabbat, le fait de le replonger dans de l'eau chaude, ça ne cuit plus. Donc il n'y a pas de issur. On parle d'un aliment qui est sec. On ne parle pas de jus. L'école shelo ba bechamin me'erev Shabbat madichin oto bechamin be'Shabbat. Et tout aliment qui n'a pas été cuit avant Shabbat, on a le droit pendant Shabbat de verser dessus de l'eau chaude, et le marloquet entre les rishonim, est-ce que c'est de l'eau chaude qu'on verse d'un clérichon ou d'un klisheni, là, la on retient que c'est d'un klisheni, donc tout ce qui n'a pas été cuit avant Shabbat, on a le droit quand même de verser dessus de l'eau chaude d'un klisheni pendant Shabbat, parce que ça ne cuit pas. Chutz mina maliach hayashan mekuyas hispanin shadachatan zoigmar melartan. À l'exception de maliach hayashan, c'est du poisson salé qui a été salé depuis un an, et kuyas hispanin, c'est une sorte de poisson aussi qu'on salait et qui venait d'Espagne, shadachatan zoigmar melartan, que le fait de verser dessus de l'eau chaude, c'est ce qui permet de les rendre mangeables, et donc c'est considéré comme bichou. Agmara demande kegon mai. Agmara demande un exemple du premier cas qui est cité dans la Mishnah, de quelque chose qui a été cuit, qu'on va faire encore tremper dans de l'eau chaude. Amar Safa a dit kegon tarnegolta de Rabbi Abba, comme le poulet de Rabbi Abba. Rabbi Abba avait l'habitude de cuire son poulet, après le laisser tremper pendant longtemps, pendant plusieurs jours, dans de l'eau chaude, pour que le poulet fonde, et il prenait ça comme remède. Ve'amar Rav Safra, et Rav Safra a dit, Zimna chada iklaït le'atam, Il m'est arrivé une fois d'être en Eretz Israël, Veuchlan Mine, et on m'a fait manger de ce poulet. Veilo Rabbi Abba de Ashkian Chama Baklata Tarfe. Et si ce n'était que Rabbi Abba m'a fait boire du vin de 3 ans, Baklata Tarfe, c'est-à-dire de 3 feuilles, c'est-à-dire que la vigne a eu le temps de renouveler ses feuilles 3 fois, donc c'est-à-dire qu'il a 3 ans, Itnati, j'aurais été forcé de vomir de dégoût. C'est-à-dire, il trouvait que c'était tellement dégoûtant comme aliment que il en aurait presque vomi s'il n'avait pas bu un bon vin après. Rabbi Yochanan Raik Mikutach de Bavlaé. Rabbi Yochanan, il crachait quand on lui parlait ou quand il se rappelait du Koutach HaBavli. Koutach HaBavli, c'était donc une sorte de sauce que les gens à Bavel avaient l'habitude de faire. Ils faisaient avec du lait caillé, avec du pain rassis et du sel, et ils trempaient leurs aliments dedans. Rabbi Yochanan, quand il pensait à ça, ça le dégoûtait, donc il crachait. Rabbi Yosef, lui, si on peut dire, il a été vexé par ça, parce que Rabbi Yosef était de Babel. Amar Rabbi Yosef a dit, « Veliro kanan mitarnegolta de Rabbi Abba. » Nous aussi, on peut cracher en pensant au poulet de Rabbi Abba, qui est quelque chose qui se mange en Israël. Véod, et en plus, Amar Rav Gaza, donc il va donner un argument, si on peut dire, en faveur du Koutach HaBavli. Véod Amar Rav Gaza, et en plus Rav Gaza a dit, Zimna Chada Iklaït Le'atam, Ve'avdit Koutach de Bavlaé. Donc il dit, une fois j'étais en Eretz Israël, et j'ai préparé du Koutach HaBavli, chez Illuminé Kol Berichem Ma'arava, et tous les malades d'Eretz Israël m'en ont demandé, donc pour guérir. Et apparemment, ils appréciaient cette sauce-là. Kol shelo bechamin vechoulé. Donc on a dit à la fin de la Mishnah que ce qui n'a pas encore été cuit avant Shabbat, on n'a pas le droit de le plonger dans de l'eau chaude pendant Shabbat, mais on a le droit de verser de l'eau chaude dessus. Et à part dans le cas de Maliyah Hayashan et Koulias Hispanin, ce poisson salé, que le fait de verser dessus de l'eau chaude, c'est permettre de les rendre mangeables, donc c'est assour. Agma demande Hidya Achmaï. Si on a effectivement versé de l'eau chaude sur le Maliyah Hayashan ou sur le Koulias Hispanin, quel est le din? Est-ce que on est chayav ou est-ce que c'est assour selon Médé Rabbanan? Amar Rav Yosef a dit Hidya Chayav Chatat. S'il a versé, il est chayav Chatat. Donc c'est assour Minatora. Amar Mar Bere de Ravina. Mar Bere de Ravina a dit Afana Namitanina. C'est également ce qu'on enseigne dans notre Mishnah. On a dit à l'exception de Maliyah Hayashan et Koulias Hispanin qu'on n'a pas le droit de verser dessus de l'eau chaude, parce que verser de l'eau chaude dessus, c'est Gmar Melartan, c'est les terminer, c'est-à-dire les rendre mangeables. Shma Mina, donc on peut déduire de là que si on dit que c'est Gmar Melartan, c'est que certainement qu'on est Chayav Khatat, certainement que c'est considéré comme Bishul Minatora. Et Gmar a dit Shma Mina, effectivement, on peut le déduire. Yativ Rabbi Chia Baraba Verabi Asi Kameh de Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba et Rabbi Asi étaient assis devant Rabbi Yochanan. Yativ Rabbi Yochanan et Kameh Namnem. Et Rabbi Yochanan était assis et somnolé. Il y a une discussion qui s'est engagée entre Rabbi Chia Baraba et Rabbi Asi. Et Amarle Rabbi Chia Baraba et Rabbi Asi. Rabbi Chia Baraba a demandé à Rabbi Asi, Mpnema ofot shebebavel shmenim. Pourquoi est-ce que les oiseaux, les volailles de Babel sont particulièrement gros, plus que ceux des rats d'Israël. Amarle, alors Rabbi Assi lui répond, Kelach le Midbar Haza ver lui a dit, mais tu as qu'à aller au désert de Haza, qui est en Eretz Israël, et je te montrerai des volailles plus grosses que celle-là, plus grosses que celle de Babel. Donc il n'est pas d'accord avec lui, il dit non, en Eretz Israël, il y a des volailles qui sont tout aussi grosses. Rabbi Chia Baraba lui pose une question supplémentaire, lui dit, Mipnema Muadim Shibbevavel Smechim. Pourquoi est-ce que les jours de fête en Babel sont particulièrement joyeux, plus qu'en Eretz Israël? Et Rabbi Assi lui répond, Mipne Shem Anim. Parce que les habitants de Babel sont pauvres, et donc ils n'ont pas l'occasion de se réjouir pendant l'année, ils n'ont pas l'occasion de faire des bons repas, et ils travaillent dur pendant toute l'année. Donc c'est pour ça que pendant les fêtes, ils se réjouissent particulièrement. Et il lui pose encore une autre question, il lui dit, Mipnema talmide chachamim chez Babel metsuyanim. Pourquoi est-ce que les talmide chachamim de Babel se distinguent par leur tenue vestimentaire, ils portent des habits particulièrement beaux? Et Rabbi Assi lui répond, les fichénam de Netora, parce que ce ne sont pas des grands talmide chachamim, donc ils ne peuvent pas se distinguer par leur Torah, donc ils se distinguent par leur tenue vestimentaire. Il lui a posé encore une autre question, il lui dit, Mipnema, Ovde Kochavim Mezoamim, pourquoi est-ce que les goïms sont impurs, c'est-à-dire spirituellement parlant, ils sont impurs? Il lui dit, Miple Shochrim Shkatsim Urmasim, parce qu'ils mangent toutes sortes d'insectes et d'animaux impurs, c'est ce qui leur donne une certaine impureté. Itar Beur Rabbi Yochanan, à ce moment-là, Rabbi Yochanan s'est réveillé, en les entendant, donc il est somnolé jusque-là, et là il se réveille. Amar Léo Dardeke, il leur a dit Dardeke, c'est-à-dire les enfants, vous êtes jeunes, Loka Hamarti Lachem, est-ce que je ne vous ai pas dit ça, et mort la Chochma Achotiat, donc c'est un pasouk dans Michelet qui dit et mort la Chochma Achotiat, dit à la sagesse, tu es ma sœur, qu'est-ce que ça veut dire, Imbaur Lecha Davar Ki Achotra Shi Asura Lecha Omrehu, Veimlav Lot Omrehu, si cette sagesse t'éclaire comme le fait que ta sœur t'est interdite, si c'est une parole de sagesse de laquelle tu es sûr, comme tu es sûr que ta sœur t'est interdite, dis-la. Mais sinon, ne la dis pas. Donc, c'est-à-dire, il dit toutes les réponses que Rabbi Assi a données à Rabbi Chiya Bar Abba, il lui a donné des réponses qui ne sont pas justes. Donc, c'est des suppositions, des hypothèses qui ne sont pas vérifiées. Donc, pourquoi est-ce que vous parlez de choses que vous ne connaissez pas? Amroulé, Vele Malan Marle et Zemen. Donc ils lui disent, mais alors que le Rav nous dise, que Rabbi Yochanan nous dise, au moins la réponse d'une de ces questions. Alors Rabbi Yochanan va leur donner les réponses à leurs questions, et il commence par la première question. Pnema au fot chez Babel Shmenim, pourquoi est-ce que les volailles de Babel sont grosses, plus grosses que celles d'Israël? Mipne Shelo Galou, parce que elles n'ont pas été exilées. Contrairement aux volailles d'Eretz Israël qui ont été exilées et qui sont revenues après en Eretz Israël, celles de Babel sont restées toujours en Babel. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans le pasouk, Shanan Moav Mineura Veshugetu El Shmara, Ubagola Loalach. Donc le pasouk dit que Moav était tranquille depuis sa jeunesse, il est toujours resté, il a reposé sur sa lit, sur son dépôt. Ubagola Loalach, il n'est pas parti en exil. Et la suite du pasouk, c'est Alken Amad Ta'amo Bo Verecho Lunamar. C'est pour ça qu'il a gardé, il a conservé sa saveur et son odeur ne s'est pas estompée. Donc on voit que le fait de partir en galoute, c'est ça qui fait perdre le goût et la santé des choses. Et donc les volailles d'Eretz Israël qui sont parties en galoute ne sont pas aussi grasses que celles de Babel qui sont restées sur place. La Gemara demande Ve'acha Minalan de Galou, mais d'où est-ce qu'on sait effectivement que les volailles d'Eretz Israël sont partis en galoute au moment de la destruction du Beth Amikdash? De Tanya, parce qu'on a enseigné dans la Braïta, Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda dit, Chamishim Ushtaim Shana Loavar Ish Bi Yuda, pendant 52 ans, personne n'est passé dans la région de Yehuda. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans le Pasouk, Aléari Mesa Bechi Venehi Vegomer, Meof Hashamaim Vad Behema Nadedu Alachu. Donc ce pasouk qui parle de la destruction du Beth Amikdash et qui dit que Aléari Mesa Bechi Venehi, je vais pleurer et me lamenter sur les montagnes donc, qui ont été détruites. Et donc dans ce pasouk, la suite du pasouk, c'est qu'il s'est tout mblihish over velosham ou kol mikne, donc il n'y avait pas là-bas ni de passants, ni même de on n'entendait pas la voix du bétail. Mais of hashamayim vad behema nadedu alachu. Et depuis les oiseaux qui sont dans le ciel et jusqu'aux animaux, ils sont tous partis. Et donc le mot Bema est en plus, parce qu'on a déjà dit qu'il n'y avait pas de troupeau, qu'on n'entendait pas le bruit du troupeau. Donc Bema Begematria Khamshin et Tartenavu. Le mot Bema, c'est la Gematria, c'est la valeur numérique de 52. Donc ça veut dire que pendant 52 ans, les 52 premières années de Galoute Babel qui a duré en tout 70 ans, là c'était complètement déserté. Et en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit dans le passage qu'on a cité aussi les oiseaux qui ont été, qui ont quitté Eretz Israël, donc ils sont partis en Galoute. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yaakov a dit au Rabbi Yochanan, Kulan Chazru, Chutz Mikulei Saispanim. Tous les animaux sont revenus en Eretz Israël au bout de ces 52 ans, à l'exception du Kulia Saispanim. C'est d'ailleurs ça le rapport avec notre sujet, c'est parce qu'on parle ici de Kulia Saispanim. D'Amar Rav, ce que Rav a dit, Hané Midre de Bavel Madere Maya Le Anetam. Donc les pentes de Bavel ramènent l'eau jusqu'à En Etam, jusqu'à la source de En Etam qui se trouve en Eretz Israël, qui est même plus haute que ces fleuves de Bavel, mais ça passe par des nappes souterraines et jusqu'à ce que ça arrive en Eretz Israël. Et les poissons donc sont revenus en Eretz Israël par ce chemin. Vehai, mais ce poisson-là, le Kulias Hispanin, Kevan de lo Sharir Shidre lo Matesalik. Comme sa colonne vertébrale n'est pas suffisamment dure pour pouvoir nager de cette manière-là, donc il n'est pas capable de remonter il n'a pas été capable de revenir en Eretz d'Israël, et il est resté en Babel. Rabbi Yochanan répond maintenant à la deuxième question de Rabbi Chia Barava. Il dit, Mipnema Moadim Shebe Babel Smechim. Pourquoi est-ce que les fêtes en Babel sont particulièrement joyeuses? Mipne Shelo Ayu Beota Klala, parce qu'ils n'ont pas été maudits par cette malédiction qui a maudit les fêtes en Eretz Israël. Dire-t-il, parce que c'est écrit dans le Passouk, donc c'est un Passouk qui parle de la Klala, la malédiction en Israël suite au Khurban. Veishbati Kol Mesosa Chaga Chotcha Veshabata Vechol Moada. Donc je vais arrêter toutes ces joies, que ce soit ces fêtes, ces Rosh Chodesh, Shabbat et toutes les occasions de fêtes. Urtiv, et c'est écrit également Chotchechem ou Adechem Sanei Nafshi Ayu Alai La Torah. Donc c'est une malédiction qui est dirigée vers les Juifs en Eretz Israël, et donc ils avaient ils se réjouissaient moins pendant les fêtes, alors que Babel n'a pas été maudite, et donc ils se réjouissent plus qu'en Eretz Israël. Maï Hayu Alai La Torah, je me demande qu'est-ce que ça veut dire Hayu Alai La Torah, que c'était pour moi une fatigue ces fêtes, les Rosh Chodesh et les fêtes. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar a dit, Amar Kadosh Baruch Hu Lo Dayan Leisrael Shechotin Lefanai, Ela Shematrichin Otil Yeda Ezo Gzera Kasha Avi Aleihem. Donc Kadosh Baruch Hu a dit, non seulement les Bnei Israël fautent envers moi, mais en plus, il me fatigue à savoir quel décret je vais leur envoyer. Donc ça veut dire que quand il fêtait ses fêtes et qu'il ne le faisait pas, les Shem Shamaim, donc il le faisait seulement pour leur propre plaisir, donc il doit les punir à cause de ça, mais non seulement il doit les punir, mais il doit, ça veut dire qu'il doit, donc non seulement ils n'ont pas fait de mitzvah, donc non seulement cette fête n'est pas les Shem Shamaim, mais en plus HaKadosh Baruch Hu doit trouver une punition qui convient. Amar Rabbi Yitzhak a dit, Anecha kol regel verigel shelo bata boleshet, pardon, Anecha kol regel verigel shelo bata boleshet le tzipori. Donc Rabbi Yitzhak a dit, pour illustrer ça justement, que cette malédiction en Eretz Israël qui était particulièrement au moment des fêtes, il n'y a pas de fête où il n'y a pas de l'armée du roi qui n'est pas venue à Tsipori pour piller, donc il les attaquait spécialement pendant les fêtes, donc c'est ce qui gâchait leur joie de la fête. Vraiment Rabbi Hanina, et Rabbi Hanina a dit, « En echa kol regel verigel shelo ba litveria, egmon vekatmon ou ba zemora. » Il n'y a pas de fête où ne sont pas venus à Tveria, un Egmon, Katamon et Balzmora, ces différents grades de d'employés du roi. Donc ils venaient pour soit pour leur prendre des impôts, soit pour les piller. Donc ce qui leur gâchait la joie de la fête. Rabbi Yochanan répond à la troisième question. Pourquoi est-ce que les Talmidei Chachamim en Babel se distinguent par leurs vêtements? Les filles chez Nam Bnei Mekoman, parce que ils ne sont pas à leur place. C'est-à-dire, comme ils ont été exilés d'Eretz Israël en Babel, donc ils ont besoin de se distinguer par leurs vêtements, des amrinche, comme les gens ont l'habitude de dire, bemata shemai, belo mata totvai. Quand je suis dans ma ville, c'est ma renommée qui fait qu'on me respecte, c'est-à-dire les gens me respectent parce qu'ils me connaissent, mais quand je ne suis pas dans ma ville, ce sont mes vêtements qui vont m'attirer le respect, parce que les gens ne me connaissent pas, ils savent pas. Donc la seule chose qui fait que je sois respecté, c'est mes vêtements qui me donnent un statut social. Agma rapporte une braïta qui va dans le sens de Rabbi Yochanan. C'est écrit dans le pasouk, la baïm yashre sheakol yatsit soufar israël. Tane Rabbi Yosef, et Rabbi Yosef a enseigné une braïta qui se rapporte à ce pasouk. Elu talmidei chachamim shebevavel shosim tzitzim ufrachim la Torah. Donc ce pasouk fait référence aux talmidei chachamim de Babel qui font des décorations, des fleurs à la Torah. C'est ça, yatsit soufar israël. Habayim yashre sheakol. Donc c'est ceux qui viennent de Babel, ceux qui viennent d'Eretz Israël en Babel ils vont faire des décorations à la Torah. Donc ça veut dire que effectivement ils étaient des Bnei Torah, puisqu'on voit que ils vont embellir le pasouk dit qu'ils embellissent la Torah, mais donc la raison pour laquelle ils portaient des vêtements, c'est pas parce que des vêtements particulièrement beaux, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas Bnei Torah comme Rabbi Assi le prétendait, mais parce que ils n'étaient pas à leur place. Mipnema ode kochavim mezoamim. Et enfin la dernière question, pourquoi est-ce que les goyim sont impurs? Shelo amdu al Arsinaï, parce que ils n'étaient pas à Kabbalat Torah au Arsinaï, ils n'ont pas reçu la Torah. Et la Gemara explique shebecha sheba nachash al chava itil ba zoama. Parce qu'en fait, cette zoama, cette impureté, elle provient de la relation que le serpent a eue avec Chava, quand il a poussé Chava à manger du Etz Hadaat, il a aussi une relation avec elle, et c'est ce qui a donné une impureté qui s'est après transmise à toutes les générations depuis Chava. Israël, Shamdou al Arsinaï, Pascha Zoamatan, les Bnei Israël qui étaient au Arsinaï, qui ont reçu la Torah, ça leur a enlevé leur impureté, parce que comme tous les malades ont guéri, etc., comme c'est écrit au moment de Mamad Har Sinai, donc ça aussi, cette impureté aussi a été guérie à ce moment-là. Ovdei Kochavim chez l'Amdou Har Sinai, le Pascha Zoamatan. Par contre, les goyim qui n'étaient pas, qui n'ont pas reçu la Torah au Har Sinai, donc leur impureté est restée et n'est pas partie. Amar le Ravacha Bered Rava le Ravashi Gerim Mai. Ravacha Bered Rava a dit à Ravashi, mais alors qu'en est-il des convertis qui n'étaient pas au Har Sinai? Donc comment leur impureté est passée? Amar le Falgav de Inu Lavu Mazalehu Avu. Il lui a dit, bien que eux-mêmes n'étaient pas, mais leur mazal était là-bas, c'est-à-dire leur neshama, leur malach était là-bas, et donc c'est ce qui leur a enlevé leur impureté d'irtive, comme c'est écrit dans le pasuk, et Asher Yeshno Po Imanu Omedayam Lifnashem Lokenu, et Asher Enenu Po. Donc cette alliance s'adresse aussi bien à ceux qui sont là-bas physiquement que à ceux qui sont pas là-bas physiquement, mais dont la neshama se trouve là-bas. Ou pliga des Rabbi Abba Bar Kahana. Et donc ce qu'on a dit, que c'est seulement au Har Sinai que leur zoama, que leur impureté est partie, c'est en désaccord avec Rabbi Abba Bar Kahana. D'amar Rabbi Abba Bar Kahana, parce que Rabbi Abba Bar Kahana a dit ad shlosha dorot lo paska zoama me'avotenu. Ça a pris 3 générations pour que l'impureté quitte nos ancêtres, nos patriarches. Avraham olid et Ishmael, puisque Avraham a donné naissance à Ishmael, donc c'est-à-dire que l'impureté était encore présente puisqu'il a donné naissance à un rachat. Yitzhak olid et Esav, Yitzhak aussi a donné naissance à Esav, donc c'est-à-dire que l'impureté était encore présente. Yaakov olid shnei masar shvatim shelo yabem shum dofi, mais Yaakov a donné naissance à 12 tribus qui n'avaient aucun défaut, donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait déjà plus d'impureté, l'impureté était déjà passée. Donc d'après Rabbi Abba Bar Kahana, c'est pas au moment de Mamad Har Sinai, mais bien longtemps avant, déjà depuis Yaakov, que cette impureté est passée. Kol Tov.